travers des tâches d'administration, etc., ou de pédagogie, je me suis toujours intéressé aux questions de vie spirituelle, d'interprétation de la Bible, donner des retraites, etc., etc. Alors, donc discerner pour décider. Alors, le mot peut recouvrir des quantités de sens. Discerner. Ça peut être comment placer mon argent, quel choix de voiture, la destination des vacances, son emploi du temps, etc. Et dans chacune de ces situations, il y a des spécialistes. Chacun ira de son conseil. Et je ne peux pas être le super spécialiste dans ces domaines. Voilà, derrière ces discernements, ces décisions, grandes ou petites, au quotidien ou une fois de temps en temps, il y a à regarder la qualité de ce que nous voulons vivre. Il y a les valeurs que nous voulons suivre. Et donc, nous nous donnons des critères. Par exemple, pour une voiture, il y a des critères sur le coût de l'achat, sur son fonctionnement, sa taille, ses reprises de vitesse, sa couleur, l'impression qu'elle va donner aux autres, etc. Voilà. Alors, vous voyez bien que nous retrouver ici sur qu'est-ce que c'est que discerner, ça ne va pas concerner ce type de discernement et ce type de choix. Il y a notre désir de servir et d'aimer. Et c'est sur ce terrain que je peux essayer d'apporter quelque chose. Voilà. Je m'adresse à ceux d'entre vous qui désirent un peu mieux servir et aimer. Donc je ne suis ni une agence de voyage, ni un conseiller financier. Voilà, sur ces domaines-là, je n'ai rien à dire. Voilà. Je peux aider à poser quelques bonnes questions pour mettre un peu plus de cohérence entre nos désirs profonds, c'est-à-dire notre désir de vie à la suite du Christ, et les décisions. Voilà. Donc, je vais essayer de parler à ceux qui désirent être éclairés sur comment décider, comment discerner, en cohérence avec son désir de suivre le Christ. Ça veut donc dire que ceux qui ne souhaitent pas le Christ, ne souhaitent pas suivre le Christ, j'allais dire, il vaut mieux partir tout de suite, et ceux qui ne souhaitent pas être éclairés parce qu'ils pensent, j'allais dire, être bons juges sur eux-mêmes, là aussi, ce n'est pas la peine de rester. Voilà. Alors, le discernement peut se décrire en parlant de méthode, de processus, mais il y a aussi une dimension d'esprit qui anime celui qui discerne. Voilà. Quand je discerne, quel esprit m'habite ? Et c'est en vue de quoi? Et donc, nous sommes toujours avec une vision générale et large du sens de mon existence, du sens des relations avec les autres. Voilà. Alors, pour terminer l'introduction, encore un petit point sur ce mot de discerner. J'aime bien quand notre pape dit que le temps est supérieur à l'espace. Ça veut dire, dans le discernement, il ne s'agit pas seulement de porter un jugement sur un instant, une situation ponctuelle, de manière à pouvoir dire quel est le bien et quel est le mal. Nous sommes des êtres historiques, nous avons à durer, à relire, à choisir le mieux ou le moindre mal. Il ne s'agit donc pas de discerner pour donner une note « Oh, cette décision, ça vaut 15 sur 20 », mais il s'agit de faire un pas de plus. Il ne s'agit donc pas de dire le bien et le mal, pour cela peut-être un canoniste serait plus utile que moi, Voilà, même si nous n'avons pas, et je n'ai pas à négliger le rapport à la loi. Voilà, alors j'attaque le premier grand point, et j'allais dire, comme tout ignatien, je ne commencerai pas par Ignace. Je commencerai plutôt par François de Sales, qui a vécu plus d'un siècle après Ignace et a été un excellent disciple. Et que souvent on dit que voilà, pour comprendre Ignace, aller voir du côté de François de Sales, c'est pas mal. Alors, le premier repérage que je vais faire donc, va se déployer à travers ce qu'on appelle la pyramide de François de Sales. Voilà, avec l'ensemble des motions, des critères. Alors, donc, la pyramide, elle a un niveau zéro. Ça veut dire, à la base, nous sommes traversés par des envies, par des émotions, par des tentations. Voilà. Et c'est pas forcément simple de qualifier ce qui nous traverse. Nous sommes le siège de pensées, de sentiments. Voilà. Nous sommes sensibles et c'est notre matière première. Cette matière première n'est pas de soi l'Esprit Saint. Voilà. Et que, de fait, nous pouvons être traversés de pensées qui ne viennent pas de l'Esprit Saint. Voilà. Ce n'est pas systématique. Ce n'est pas parce qu'on pense qu'immédiatement, ce que nous pensons vient de. Ce niveau zéro, il est fait pour définir une question, une problématique. Positionner un choix avec une alternative. Voilà. Quelle est la question sur laquelle j'ai envie de discerner ? On ne peut pas discerner dans le vague, dans simplement un ressenti. Il y a à poser une problématique en vue d'un choix. Voilà. Donc, tant qu'on est dans l'indéterminé, voilà, il n'y a pas un vrai discernement qui peut s'opérer. Il s'agit de se mettre en face de soi-même et de se dire, voilà la question que je me pose. Voilà, niveau 0. Alors le niveau 1, donc on s'élève un petit peu dans la pyramide, c'est la pesée des raisons. Voilà. On met en place des arguments et j'imagine que nous sommes dans un choix entre une solution A et une solution B. Alors, il y a à peser pour la solution A les raisons favorables et les raisons défavorables. Et pour la solution B, de trouver quelles sont les raisons favorables et quelles sont les raisons défavorables. Voilà. On prend le temps d'argumenter, de raisonner. Voilà. Ce temps est nécessaire, c'est-à-dire le temps de l'intelligence, le temps du raisonnement, parce qu'il met à distance le sentiment, ce qui serait uniquement de l'ordre de l'émotion. Il oblige à un recul, à ne pas se voiler la face dans un déni des problématiques. Voilà, c'est compliqué. Eh bien, je prends le temps, j'allais dire, d'écrire que c'est compliqué et de montrer toutes les pièces du puzzle qui vont faire que, pour finir, je vais pencher dans un sens ou dans un autre. Il peut y avoir des éléments juridiques, des éléments financiers, des éléments relationnels, et à ce niveau 1, j'allais dire, les lois civiles en particulier sont à prendre en compte. Et à partir de là, je peux me dire... Quels sont les arguments qui ont du poids ? Voilà. Comment je qualifie ce que j'ai mis en positif et négatif sur la solution A ? Comment je qualifie en positif et négatif ce que j'ai mis sur la solution B ? Voilà. Un temps calme, un temps peut-être d'écriture. Voilà. On prend son temps. Voilà. Niveau 1. Niveau 2. On s'élève dans la pyramide. Puisque nous souhaitons suivre le Christ. Donc, il s'agit d'un discernement chrétien. Ici intervient, j'allais dire, le niveau moral, un niveau éthique, un niveau ecclésial. C'est-à-dire, au-delà du légal au sens des lois civiles, du raisonnable, il y a des indicateurs plus fins qui sont donnés, par exemple, par les lois de l'Église, les commandements de Dieu, des dimensions éthiques. Par exemple, ne pas faire au prochain ce que je n'aimerais pas que l'autre me fasse. Voilà. Dans tout l'univers des possibles, tout n'est pas souhaitable, tout n'est pas charitable. Voilà. Pour donner un exemple précis qui, je pense, est suffisamment lointain et vous aurez bien du mal à deviner qui ça peut viser, il m'est arrivé, il y a fort longtemps, d'accompagner une retraite pour des jeunes, 18-23 ans. Un jeune, 16 ans et demi, a triché sur son âge parce qu'il voulait absolument faire cette retraite. Très bien. Et donc 5 jours quand même, on prenait le temps un peu de poser les choses, de réfléchir à l'avenir, de dire, ben voilà, qu'est-ce que vous voulez faire? Et pour lui, c'était évident, ce qu'il voulait, c'était être mercenaire. Voilà. Il trouvait que d'aller rejoindre en Afrique un certain nombre de bandes armées et de se mettre au service de ces bandes armées pour aider à ce qu'un pays entre dans la justice, il avait envie d'être mercenaire. Il trouvait que c'était formidable. Voilà. Alors, au niveau 2, voilà, on lui a donné à prier sur les 10 commandements. Et il est revenu de sa méditation catastrophé, en disant, mais c'est pas possible, il y a un commandement, c'est tu ne tueras pas. Il ne l'avait jamais entendu, jamais découvert. Et pour lui, ça a été une révélation, en disant, mais alors, mon projet, c'est pas bon. Je ne peux pas être mercenaire. Voilà. Eh bien, dans les 48 heures qui ont suivi, ce jeune a converti cette générosité spontanée vers Dieu, et un peu après, il est entré au séminaire et il est prêtre dans un diocèse de France. Voilà, vous voyez les chemins de Dieu. Ouais. Niveau 2, voilà. On prend en compte un certain nombre d'éléments qui sont simplement au-delà des lois civiles. Voilà. Alors, niveau 3, continue à monter. Donc, je suis devant Dieu et devant des êtres qui m'importent, des êtres chers, et je prie. Voilà. Dans cette relation de prière, dans cette relation avec d'autres, j'essaye d'entendre, pas seulement de raisonner, mais d'entendre dans le silence, qu'est-ce qui me semble préférable, qu'est-ce que j'entends comme appel. À quoi ou à qui je désire donner une réponse. Voilà. Il s'agit ici de sentir intérieurement si une préférence personnelle se dégage à partir du travail réalisé dans les 2 premières étapes, niveau 1 et niveau 2. Voilà. Cette préférence personnelle fait sentir sa justesse ou son inadéquation en se mettant en présence de Dieu ou de son conjoint, ou de ses enfants. Ou encore, on imagine, oui, je suis 25 ans plus tard, et en m'imaginant 25 ans plus tard, je me retourne en arrière et je me dis qu'est-ce que j'aurais aimé avoir décidé 25 ans avant. Voilà, pour essayer de faire émerger une préférence, quoi. Voilà, de quel type d'attitude, 25 ans plus tard, je serais fier. Et au contraire, si je décide ça 25 ans après, c'est pas sûr que je sois très fier de l'avoir décidé, quoi. Voilà. Tous, nous avons une vocation, tous. C'est-à-dire une dimension d'appel qui traverse nos existences. La préférence personnelle se discerne, se dégage dans cette ouverture à l'autre. Cette ouverture, elle n'est pas dépendance ni aliénation. On ne se décide pas de sa vie pour faire plaisir à ses parents. ou à son conjoint. Il s'agit sans cesse de la foi, de l'espérance, de la charité, et non d'un esclavage aux petits plaisirs. Voilà. La différence est fine, mais pour prendre un exemple, c'est la différence entre « quitte la maison de ton père et va vers le pays que je t'indiquerai » et le commandement « honore ton père et ta mère ». Voilà. Quand ce sont les parents qui disent à leurs enfants « honore ton père et ta mère », on sent que cette manière de le dire peut être chargée d'un certain esclavage et que ça n'est pas juste. Et que le jeune doit entendre « quitte la maison de ton père ». Et la manière d'honorer ses parents, c'est d'honorer le don de la vie que les parents lui ont donné. Voilà. Ça n'est pas d'être l'esclave de ses parents, c'est de mettre en valeur le don de la vie qu'ils ont reçu, et la plus grande joie des parents, c'est de devenir grands-parents. C'est-à-dire de découvrir que leurs enfants, à leur tour, donnent la vie. Voilà. Et donc, ils ont compris ce que les parents ont vécu, puisque, à la génération suivante, les enfants, de nouveau, traversent la joie de communiquer la vie encore à la génération suivante. Voilà. Ceci, c'est la meilleure manière d'honorer son père et sa mère. Voilà. Donc, niveau 3, c'est, voilà, ayant fait le travail de niveau 1 et de niveau 2, voilà, qu'est-ce que, pour finir, en ouvrant mes oreilles pour entendre mes sens, etc., pour finir, qu'est-ce qui émerge d'une vraie préférence personnelle ? Niveau 4. Ce que François de Sales appelle la fine pointe de l'âme. Une fois passé par les étapes précédentes, incontournables pour les grandes décisions, il y a le passage d'une préférence reconnue au niveau 3 à une décision. Et que le passage à l'acte, la décision, elle n'est plus de l'ordre du rassemblement des éléments sur les niveaux 1, 2 et 3. Elle est d'une autre nature. Elle fait qu'il y a un avant et un après. Voilà. Si je prends un exemple tout bête, vous avez envie d'acheter des tissus pour confectionner des rideaux. Vous pouvez passer une demi-heure dans le magasin à hésiter et à chercher. Le jour où vous payez, vous avez décidé. Voilà. Et là, il y a un avant et un après. Mais tant que vous hésitez, ben, vous êtes toujours dans l'avant. Voilà. Donc le niveau 4, il fait que, on passe de l'autre côté. Et le niveau 4, il est sans raison. C'est-à-dire que si on vous demande pourquoi, vous allez pouvoir donner des raisons du niveau 1, mais elles sont jamais à la hauteur de la liberté au niveau 4. Voilà. Pour donner un exemple célèbre, Dietrich Bonhoeffer, donc pasteur protestant, quand il a senti dans les années 30, début des années 30, la montée du nazisme, il a fui l'Allemagne en se disant « Moi, je ne peux pas supporter de vivre avec cette montée d'Hitler ». Cette manière d'être, et il est parti aux États-Unis. En 1938, quand il a vu la manière dont les choses se développaient, la Pologne, etc., il s'est dit « Je suis allemand, je dois être solidaire de mon pays, il faut que je rentre ». Et dans son journal, il écrit « J'ai décidé, je rentre ». Et il savait que s'il rentrait, c'était bien pour s'opposer à Hitler, et il mourra en camp de concentration. Et dans son journal, il dit « Je ne sais pas dire pourquoi ». C'est-à-dire, c'est une préférence qui est au-delà des raisons. On peut en donner des indications, mais j'allais dire, il y a comme un coup de cœur qui fait que voilà, notre liberté, elle s'engage. Et c'est noble et c'est normal que ce soit au-delà des raisons. Parce que si on n'en est qu'au niveau de l'intelligence, j'allais dire, on va être des robots, on va être, il y a quelque chose qui n'est pas honoré dans notre humanité. Et qui fait que chacun, nous sommes irréductibles, nous sommes un mystère. Au niveau de, ah oui, j'ai choisi, c'est ça que je préfère. Voilà. Et c'est, j'allais dire, quelque chose qui échappe à moi-même, qui est, d'où vient cette préférence ? Voilà. Alors, ce qu'ajoute François de Sales, c'est que les arguments du niveau 1, donc vous voyez, les arguments de la raison, de l'intelligence, sont souvent pesés à partir d'éléments du niveau 3, voire 4, sans que l'on en soit conscient. Voilà. On va majorer ou minorer un élément d'ordre financier, par exemple. Mais c'est déjà, j'allais dire, motivé par une préférence qui ne dit pas son nom. Voilà. Je pense par exemple à des cadres qui discernent sur des changements d'entreprise, sur des évolutions de carrière. Ils peuvent bien faire cet exercice du niveau 1, mais en fait, dans la manière de peser les arguments, j'allais dire, il y a une préférence personnelle qui fait qu'ils accordent à tel critère un poids que d'autres n'accorderont pas. Je pense aussi, puisqu'on vous a dit que je travaillais entre autres dans l'immobilier, le nombre d'experts en immobilier, d'expertise dans tous les domaines. C'est étonnant de sentir combien l'expertise n'est jamais que du niveau 1, mais que l'affectivité, la manière de voir de l'expert colore son expertise. Elle n'est pas neutre. Voilà. Qu'il le veuille ou non, un expert, quand il fait un rapport technique, il est au-delà de simplement la raison. Et il induit ses propres préférences personnelles. Voilà. C'est difficile de rester au niveau. Hein. On est des êtres entiers, on ne peut pas nous couper en tranches. Voilà. Et quand nous souhaitons, pour nous aider, nous faire entourer d'experts, voilà, ce sont pas eux qui ont la décision finale. Il faut bien rester libre. Même s'il y a à entendre leurs analyses et leurs arguments. Voilà, donc décider, c'est quitter une situation connue pour une autre inconnue. Voilà, Abraham partit sans savoir où il allait, mais fort de la promesse d'une fécondité et d'une terre où il ferait bon vivre. Voilà, donc première partie, vous voyez, pyramide de François de Sales, avec un repérage, j'allais dire un peu de méthode. Alors, deuxième élément, je voudrais essayer de parler de l'esprit qui anime le discernement en vue d'une décision. Toute décision, tout discernement se fait en fonction d'une finalité. Voilà. Donc il y a des moyens. Et on cherche des moyens qui sont adaptés à une fin. Et c'est très vite complexe. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est la fin et qu'est-ce que sont les moyens ? Et que nous avons très vite la confusion entre la fin et les moyens. Exemple, la santé. C'est une fin ou c'est un moyen ? Voilà. Si on la considère comme une fin, quand même, qu'est-ce qu'il y a comme valeur supérieure à la santé ? Ben vous imaginez la désolation que ça va être quand elle va venir à manquer. Vous voyez le regard que vous allez porter sur ceux qui n'ont pas beaucoup de santé. La santé, c'est vraiment une valeur de fin. C'est un moyen. Ouais. Et pourtant, dans l'ordre des valeurs du monde, c'est-à-dire tout le monde nous dit bonne année, bonne santé, quand les médecins ou les dentistes vous proposent des choses, j'allais dire rien n'est trop beau et ça n'a pas de prix, et évidemment vous ne pouvez que choisir le meilleur, etc. etc. Voilà, on est dans une société où la santé semble être une fin. Mais ça n'est pas vrai. La santé est un moyen. Un moyen pour servir et aimer, quelle que soit la santé. Sinon, nous décourageons tous ceux qui vivent un épisode de maladie, tous ceux qui arrivent en fin de vie, etc., etc. Et chacun, nous avons une santé différente. La santé est un moyen qui nous est offert, donné pour vivre notre existence. Le sommeil, c'est un moyen ou c'est une fin? Si c'est une fin, la jeune maman ne va pas se lever pour donner le sein à son bébé qui pleure. Si c'est un moyen, eh bien, ça veut dire qu'il y a une priorité plus grande par rapport au sommeil qui fait qu'elle va se lever. Voilà, parce qu'elle veut servir et aimer. Voilà. Donc, de pouvoir distinguer quels sont les moyens et quelles sont les fins, voilà, c'est vraiment important. La réputation, l'honneur, si c'est une fin, d'avoir une bonne image médiatique, du coup, je suis tenté par le mensonge, par le déni. Voilà. Même si ça semble désirable de ne pas perdre la face, d'être reconnu, d'être loué, voilà. La réputation, c'est un moyen, c'est pas une fin. Voilà. Du coup, quelle est la fin ? Si c'est ni la santé, ni la réputation, ni le sommeil. Voilà. Si l'on est chrétien, la fin, c'est respecter l'autre, c'est servir, c'est dire du bien, c'est louer, c'est donner de sa vie, donner sa vie pour la vie de l'autre, et tout le reste du créé, tout le reste du créé. Les autres choses sur la face de la terre sont là pour aider à réaliser la fin. Voilà. Et donc, nous sommes invités à utiliser tout le créé dans le rapport à la fin. C'est-à-dire, nous avons sans cesse à discerner, est-ce que les objets, l'univers, dans la manière dont j'établis des rapports avec les objets, est-ce que pour finir, ça m'aide à respecter l'autre, ça m'aide à aimer et servir, ou bien pour finir, j'ai là des attachements désordonnés qui me gênent pour déployer ma relation aux autres. Voilà. Du coup, vous voyez, dans le discernement, il n'y a pas seulement la pyramide de François de Sales, mais de fait, nous éprouvons que nous sommes traversés par des attachements. Voilà, nous ne sommes pas neutres. Et quand je parlais de préférences personnelles, il peut y avoir des préférences mal placées, c'est-à-dire des préférences qui portent sur des moyens et qui les transforment en fins. Et ça n'est pas juste. Voilà. Vouloir ne pas mettre sa santé en danger, voilà, peut-être que c'est dur, mais de temps en temps, c'est un attachement désordonné. L'exemple de la jeune maman par rapport à son enfant. Voilà, on peut être attaché à une maison, on peut être attaché à une voiture, on peut être attaché à des objets, etc. Voilà, j'ai un souvenir personnel qui me traverse par exemple. Quand j'étais gamin, j'ai joué au ballon dans le salon qui a renversé un splendide vase de cristal. Voilà. Eh bien, la colère des parents, voilà. Quelque part, je les ai obligés à avoir un détachement. Voilà. Ils étaient attachés à ce vase de cristal. Ils étaient attachés, voilà, il n'y en a plus. J'allais dire, si vraiment ils y étaient attachés à fond, j'allais dire, je ne serais pas là, quoi. Ça veut dire, je serais passé après le vase de cristal. Bon, ça veut dire, voilà, le vase de cristal, c'est un moyen, c'est pas une fin. Même si il était beau, même si, etc. Voilà. Si je prends un exemple biblique, Hérode, avec Jean-Baptiste, on avait ça dans les évangiles il n'y a pas longtemps. Voilà. Il a des attachements désordonnés. Il est attaché à la femme de son frère. Et puis, il s'attache à sa nièce. Et il s'imagine être un espèce de roi tout-puissant et sans limite. Il soigne son image auprès des invités. Et son image lui dit, il faut être cohérent entre ses serments, sa parole et les actes. Et du coup, une fois qu'il a fait un serment, sûrement mal placé, avec la fille d'Hérodiade, il pense que c'est honorable d'accepter d'aller couper la tête de Jean-Baptiste. Voilà. Mais évidemment, ça montre qu'il est complètement désordonné. Et en plus, je serai parmi les invités d'Hérode, je me dirais, oh là là, mais ce roi, il se prend pour un dieu imaginaire, c'est-à-dire un dieu qui n'est absolument pas dieu, c'est-à-dire il s'imagine qu'il a, dans sa royauté, pouvoir sur la vie et la mort de ses sujets. C'est complètement faux. C'est un pouvoir qui est complètement délirant. Ça honorerait Hérode de dire à la fille d'Hérodiade, écoute, je t'ai promis la moitié de mon royaume, mais ce que tu demandes, je ne l'ai pas, je ne le possède pas. La vie de Jean-Baptiste ne m'appartient pas. Voilà. Et que je serais dans la table autour, je me dirais, oh là là, mais ce Hérode, il est sans foi ni loi, il est imprévisible, j'ai à me méfier de lui comme la peste. Il est inhumain, c'est-à-dire il est complètement désordonné. Voilà. Donc, on peut suivre la méthode de discernement avec tous les niveaux que j'ai indiqués, mais la suivre avec une idée préconçue de là où je veux arriver. Une idée qui ne fera qu'habiller ma volonté propre. Voilà. Je sais ce que je veux. Alors on m'a indiqué une très belle méthode avec François Salles, le prédicateur était excellent, je vais la suivre, mais je sais bien où je veux arriver. J'ai ma volonté propre. Voilà. Et c'est le moyen que j'ai choisi que je qualifie de fin. Voilà. Ceci est une illusion du discernement. Je fais venir Dieu là où je veux, au lieu d'écouter ce à quoi il m'appelle. Et du coup, il y a un énorme travail spirituel de toujours, de tous les temps, qui est de nous libérer des attachements désordonnés. Ce qu'Ignace emploie avec un mot qui est un peu difficile, il dit « il faut aller vers l'indifférence ». Alors, mot difficile parce qu'on ne peut pas être indifférent à la vie des autres. On ne peut pas être indifférent à des tas de choses. Forcément, on a des préférences. Mais ça veut dire qu'il y a sans cesse à se reposer la question, ma préférence est-elle sur un moyen ou est-elle sur une fin? Et comment j'ordonne mes préférences? Et est-ce que je suis prêt à renoncer à une préférence de rang 2 pour choisir ce qui vient en rang 1, qui est la fin? Voilà. Cette maison, je l'aime bien, mais je l'offre au Seigneur. Si j'entends un appel qui me demande un déménagement, je ne vais pas en faire une maladie, c'est possible. Cette maison, j'y tiens, mais Seigneur, elle est à toi. Voilà. Je suis prêt à déménager quand même. Voilà. Voilà. Devenir indifférent, c'est-à-dire capable de choisir ce qui sera pour la vie de l'autre et non pour mon confort. Voilà. Cette démarche, c'est sans cesse un chemin, ça n'est pas un état. Nous ne sommes jamais indifférents. C'est sans cesse un travail à faire. Voilà. Chemin spirituel qui jalonne nos histoires personnelles. Et dans ce chemin, c'est clair que la prière, l'accompagnement spirituel trouvent là leur juste place. Voilà. Alors Ignace de Loyola donne l'exemple d'un discernement en disant, voilà, imaginez une personne qui a acquis un bien, voilà, une somme d'argent importante. Bon, c'est à lui, au niveau des lois civiles, mais il a été un peu ficelle dans la manière d'obtenir. Voilà. Ok, c'est à lui. On va pas envoyer un juge, on va pas... Non. Mais enfin, il y a quand même eu un peu de fourberie. Pas clair, quoi. S'il veut bien regarder sa conscience d'un peu près, quoi. Voilà. Alors, Ignace indique 3 stades possibles. Voilà. La personne, premier stade, peut faire semblant de discerner. En se disant, oui, bon, je ne l'ai pas bien acquis, bon, qu'est-ce que je fais, etc. mais en fait, elle n'est pas disposée à remettre en cause le fait qu'elle est propriétaire de ce bien. Et donc, elle cherche des raisonnements et elle se fait du cinéma intérieur pour penser que Dieu est bien content, pour finir, qu'il ait acquis ce bien et qu'il va évidemment l'utiliser pour un plus grand bien. Voilà, niveau 1. Il est en fait dans une recherche d'auto-satisfaction, justification. Alors, niveau 2, la personne peut essayer de négocier avec Dieu. Oui, je vais aller me confesser. Je vais regretter la manière dont les choses se sont passées. Mais sur le fond, je garde le bien. Je vais donc demander à Dieu d'en venir à ce que je veux. Et je vais lui faire quelques concessions. Voilà. Et puis le niveau 3, eh bien, la personne veut remettre le bien à Dieu. Elle est prête à s'en détacher et elle écoute ce qui est le mieux, sans avis prédéterminé. Elle est libre, elle est prête à tout, à le garder, comme à le donner, comme à, etc. Voilà. Alors, évidemment, disons, le discernement porte normalement sur des décisions possibles. Je veux dire par là, normalement, il n'y a pas à discerner si je vais épouser la femme de mon frère, ou si je vais tuer l'amant de ma femme, ou si je vais tricher sur ma déclaration d'impôt. Voilà. Il peut y avoir dans ces domaines-là des tentations, des combats intérieurs, des envies mal placées, mais sur la décision à prendre, normalement, il n'y a guère de doute. Encore que, on peut bien imaginer, par exemple, un certain nombre de chrétiens ont pu se poser la question, je parlais d'Hitler, voilà, est-ce que, pour finir, est-ce que ce ne serait pas un moindre mal que de le tuer ? Voilà. Voilà. Donc on peut être amené à se poser quand même des questions vraiment difficiles. Voilà. Alors, un conseil à travers ces discernements, cette recherche d'une volonté propre, abandonnée, d'une intention pure, si le discernement se fait dans le trouble, dans l'inquiétude, voilà, c'est compliqué, on n'a pas l'esprit clair, alors on ne le conclut pas. Voilà, on cherche plutôt à tenir ferme dans la foi, l'espérance et la charité. Et on attend une période de calme et de paix intérieure. Et c'est quand on est apaisé qu'alors une décision se prend. Voilà. Donc le combat spirituel, vous voyez, il a une place importante dans le discernement. Voilà. Alors, je peux pointer un certain nombre de mirages de l'imaginaire, ce sur quoi nous avons à gagner en liberté, voilà, tout ce qui est de l'ordre de la jalousie, voilà, le prêt du voisin semble toujours tellement plus désirable et plus vert que le mien, là où je suis, ou bien le refus de ses limites, voilà, je rêve d'être un autre, je me rends malheureux de qui je suis, ou bien je manque de confiance en moi, mais d'une manière telle qui est pour finir, je n'ai pas confiance en mon Créateur qui m'a donné la vie, qui m'a donné les conditions de mon existence, où je suis sans cesse dans l'obsession de mon image, ne vivant que par le regard des autres, ou encore je veux résoudre les problèmes d'autrui à leur place. On peut être gagné par une espèce de générosité dévorante où l'on s'imagine le sauveur des autres. Voilà. Là encore, il y a des choses qui sont pas justes. Voilà. On peut être tenté, sous couvert du bien, voilà, penser à des exploits pour Dieu. Voilà. On s'imagine que les grands saints ont fait des choses extraordinaires et donc il faut que je fasse des jeûnes, des prières, des dévouements auprès des autres, mais d'une manière telle que c'est toujours plus et que pour finir c'est désordonné. Voilà. Il n'y a pas à chercher à faire des œuvres pour Dieu, il y a à chercher à faire l'œuvre de Dieu. Voilà. On n'a pas à chercher un débordement d'activité généreuse pour Dieu, il y a à croire dans mon existence au quotidien. Alors, troisième petit paquet concerne, j'allais dire, l'altérité, le rapport aux autres, et en particulier la confirmation, c'est-à-dire ce qui vient après la décision. Voilà. Une décision comporte toujours un rapport à l'autre, puisque la fin, elle touche au service, au respect, et donc c'est jamais uniquement par rapport à soi-même. Voilà. Et donc, vous avez pu entendre, mais je crois que c'est bien de le redire, que dans les niveaux 1, 2 et 3, l'autre est présent. Nous ne sommes pas seuls. Il y a à prendre l'avis d'experts, s'entourer de conseils. Il y a, dans le monde ecclésial, à interroger, éventuellement un accompagnement spirituel, voilà, pour arriver à la fine pointe de l'âme. Évidemment, dans la pesée des éléments, il y a à regarder les conséquences de ces décisions sur les tiers, et pas seulement sur soi. Alors, le rapport à l'autre prend une couleur particulière une fois la décision prise. Voilà, j'ai pris ma décision. Voilà. Alors, j'imagine un jeune qui décide, qui discerne, et il choisit « je veux devenir prêtre ». Mais il va pour cela rencontrer un évêque. Et cet évêque décidera ou non de l'admission au séminaire. Voilà. Ou bien un homme qui hésite par rapport au choix d'une fille, voilà, qui se sent appelé à mener sa vie avec tel ami qu'il connaît depuis un moment. C'est pas parce qu'il sort de la retraite avec sa décision prise en disant « c'est elle que j'épouse » qu'elle n'a pas son mot à dire. Elle a bien évidemment son mot à dire. Voilà. Et que c'est pas forcément un mauvais discernement d'avoir discerné « ah oui, je crois que c'est avec elle que je vais vivre ma vie » et que elle dit non. Voilà. L'Esprit Saint parle au cœur de chacun et pas seulement auprès de l'un, voilà, et c'est tout, et que chacun chemine. Voilà. Il y a une célèbre lettre d'Ignace de Loyola sur voilà, François de Borgia était un prince de la cour d'Espagne, et il est secrètement, une fois devenu veuf, il est devenu jésuite. Donc très bien, et forcément ça s'est su un peu à la fois, et voilà que la cour d'Espagne, au sens des cardinaux, de l'Église, etc., a fait pression sur le pape pour qu'il devienne cardinal. Alors Ignace de Loyola n'aime pas du tout, et ça continue, à ce que les jésuites deviennent des cardinaux ou des évêques, c'est pas notre vocation. Et quand il a senti qu'au niveau du pape, oui, non, mais voilà, après ça, il peut y avoir des exceptions, mais voilà, c'est comme ça. On pourra en reparler si vous voulez. Donc, Ignace, voyant qu'il y avait une pression autour du pape pour que François de Borgia devienne cardinal, il a demandé aux jésuites de Rome de prier pour discerner est-ce que c'est bien ou non qu'il devienne cardinal. Et il fait une belle lettre à François de Borgia en disant, voilà, nous avons prié, on a discerné, et je vous demande, au nom de la Sainte Obéissance, faites tout pour refuser le chapeau de cardinal. Ceci étant, il est possible que les instances auprès du pape fassent que, pour finir, vous soyez obligé d'accepter le chapeau de cardinal. Acceptez-le. Ça veut dire, d'un côté, l'Esprit nous demande, nous et moi, Ignace, de dire non. D'autres travaillent pour que ce soit oui. Et personne ne possède l'Esprit Saint. Et donc, ça mènera là où ça mènera. Voilà. Moi, je suis appelé à dire ceci, d'autres sont appelés à dire cela. Il n'y en a pas un qui a la vérité contre l'autre. c'est chacun doit tenir inspiré dans l'esprit et on va travailler avec ça. Voilà, le respect de l'autre, l'altérité. Voilà. C'est pas parce que j'ai pris une belle décision qu'elle doit s'imposer à l'autre. C'est ma détermination, c'est ce que je décide, mais l'autre garde sa liberté complètement. Voilà. Et vraiment, je le vois à travers des gens que j'accompagne encore. Je vois des beaux discernements dans des retraites et où derrière, voilà, c'est vraiment une transformation. C'est utile d'avoir décidé. Et puis la vie, la rencontre avec d'autres, fait que pour finir, la décision ne se met pas en œuvre sous la manière dont on a décidé pendant la retraite. Ça fait partie du réel. Et c'est normal, et c'est bien, et c'est pas contradictoire avec l'Esprit Saint, au contraire. Voilà. Donc les critères habituels d'un choix juste sont la simplicité, la joie, la paix, la sérénité dans la mise en œuvre. Si au contraire la mise en œuvre inquiète, renferme, la décision n'est pas ajustée. Alors là, il y a un bel exemple, c'est Marie. Voilà. L'annonciation, donc elle accepte qu'il me soit fait selon ta parole et immédiatement elle fonce chez Élisabeth pour servir pendant 3 mois jusqu'à la naissance de Jean-Baptiste. Voilà. Elle manifeste qu'elle est ouverte aux autres. Sa décision ne l'a pas refermée sur elle-même en se disant, oh là là, quoi j'ai dit oui, qu'est-ce que c'est que ce truc, qu'est-ce qui va m'arriver, rien du tout. C'est-à-dire... C'est comme si rien ne s'était passé, sinon que elle a à vivre sa relation aux autres, et à servir et à aimer. Voilà. Et sa vie se déroulera ainsi. Voilà. Donc la prière, l'écoute de l'Esprit Saint ne s'arrête pas une fois la décision prise. Elle continue, puisque la fin dernière, c'est Dieu et son service. Et donc la prière et l'écoute de l'Esprit durent sans cesse. Voilà, je reviens à ce que je disais au début, la durée est importante. Voilà. Et nous allons, dans nos existences, de micro-décision en micro-décision. Et c'est un peu à la fois que cela s'ajuste. Voilà. C'est très intéressant de voir comment Ignace, au moment de sa conversion, il prend toute une série de petites décisions et qu'il est long à trouver un équilibre dans le rapport au manger, dans le rapport aux soins du corps, dans le rapport au sommeil, dans le rapport à la prière. Voilà. Il va mettre plusieurs mois à trouver un équilibre. Mais il passe avant par des extrêmes pas raisonnables. Mais voilà, il relie, il garde ces choses en son cœur, dirait Marie. Voilà. Voilà. Alors, sur l'objet du discernement, pour continuer, tout n'est pas à discerner en y passant du temps. On pourrait devenir scrupuleux. Voilà. Vous connaissez l'histoire de celui à qui, le scrupuleux à qui on demande de faire un tri d'un tas de pommes de terre, en faisant, il a un grand sac, et de mettre les petites à droite et les grosses à gauche. Alors, il prend la première, la deuxième, il n'y a pas de problème. La troisième, il ne sait plus où la mettre. Voilà. Et donc, le scrupuleux va sans cesse rester dans l'hésitation en se disant « Ah, il y a des critères pour la mettre à droite, puis il y a des critères pour la mettre à gauche. » Mais voilà. Voilà. De même, on ne peut pas tout bien faire en vue d'être irréprochable. Voilà. Rêver d'une décision irréprochable n'est pas juste, c'est pas humain. Ça n'est pas juste de penser que la vie chrétienne consiste à être irréprochable. C'est pas juste. Si nous voulions être irréprochables, j'allais dire, ce serait une injure à ce qu'est la rédemption, c'est-à-dire à ce qu'a fait Jésus. Il est venu pour nous sauver. Alors, je ne dis pas qu'il faut du coup absolument pécher pour qu'il nous en sauve. Là-dessus, ce serait complètement caricatural et ce serait le serpent qui dirait ça. Mais c'est clair que nous avons à vivre sans cesse de l'expérience du pardon. Voilà. Nous ne sommes pas des êtres purs et irréprochables dans un monde compliqué et plein de péchés. Nous sommes solidaires d'un monde et nous avons à montrer que l'expérience de la réconciliation et du pardon est une manière de vivre ensemble. Et que nos décisions, elles sont inscrites dans cette visée de vivre de la réconciliation et non pas de l'irréprochabilité. Voilà. Nous avons à vivre de la miséricorde. Alors, sur les personnes qui sont indécises, voilà, il peut quelques caricatures de pourquoi on peut être indécis. Il y en a qui ne veulent pas trancher parce qu'ils aiment rester dans la confusion et de pouvoir rêver que tout est encore possible. Voilà. Choisir une femme, choisir un homme, c'est renoncer aux autres. C'est tellement mieux de continuer à rêver que tous sont possibles. Voilà, une interminable adolescence. Ou bien, il y a des indécis qui ont peur de l'affrontement à l'autre et aux autres. Voilà, je vois par exemple des gens qui sont dévorés intérieurement par une flamme, mais qui n'osent pas l'exprimer, parce que c'est prendre le risque d'être éconduit ou d'être mal compris. Mais que, évidemment, c'est interminable de ne pas oser dire ce que l'on pense. Il en est d'autres qui ne veulent pas se convertir. Voilà, je sens bien que ça me ferait du bien d'avoir une aide psychologique, il serait bien que je prenne telle décision, je crois qu'il faudrait que... Mais il n'y a jamais la moindre décision parce que, en fait, je n'ai pas envie de me convertir et de changer. Ou encore, indécis parce que les occupations, le rythme de vie font qu'il n'y a pas de disponibilité pour se décider. Et saint Paul nous indique aussi que lui, comme nous, peut faire le mal qu'il ne veut pas et ne fait pas le bien qu'il voudrait. Voilà. Donc il y a des décisions qui engagent lourdement et qui se prennent dans une intuition et qui prennent très peu de temps, et d'autres qui mûrissent lentement. Voilà. Et que, j'allais dire, si je vous donne un témoignage personnel là, qui me vient, mais je me souviens quand j'étais en terminale, donc je suis rentré chez les jésuites à 18 ans, j'ai fait un an de fac après mon bac, mais au moment de, en année de terminale, je rêvais de prendre du temps pour discerner ce que je ferais de mon existence. Et puis, il se fait que la retraite où je suis allé, en fait, a été un chahut permanent, que ça ne s'est absolument pas passé comme je l'aurais rêvé. Et du coup, j'ai pris ma décision en une minute. Voilà. Donc, s'il fallait un tout petit peu résumer, se décider devant Dieu, en somme, c'est quoi ? Ouais, qu'est-ce que c'est se décider devant Dieu ? Voilà. Ben, premièrement, la décision qui est prise, elle a une dimension d'être reçue. C'est aussi bien ma décision que celle de Dieu. Elle est prise ensemble. Dieu veut faire alliance avec nous. Voilà. On pourrait revenir sur la question de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, elle n'est pas inscrite dans un grand livre, dans un ciel, où il faudrait que je trouve une échelle pour aller lire ce qui est marqué et que je dois faire. Elle n'est pas de cet ordre-là. Dieu veut, il a une volonté, et ce qu'il veut, c'est que nous vivions en alliance avec lui. Lui fait alliance, il nous le dit, depuis toujours, depuis la création et en son Fils. Et c'est, j'allais dire, irréductible, c'est éternel. Dieu s'est engagé en notre faveur pour nous. Et il souhaite que nous répondions à son alliance, j'allais dire, comme dans un couple. C'est-à-dire, rien n'est programmé, rien n'est prédéterminé, mais nous allons ensemble inventer la vie. Nous allons ensemble décider de ce qui est le meilleur. Et l'homme est le partenaire de Dieu qui a, j'allais dire, dans son existence d'homme, à incarner, à trouver des gestes, que Dieu ne peut pas faire. Voilà. Mais Dieu a envie d'en discuter avec l'homme, de pouvoir se réjouir de ce que chacun va inventer. Voilà. Voilà. Donc, la prise de décision suppose une attention aimante à Dieu et aux signes qu'il nous fait. Ouais. La décision, elle tranche. Et il n'y a pas de choix sans croix. Mais il n'y a pas de joie et sans paix. La décision, elle est réaliste, humanisante, elle incarne. Voilà. La décision nous incarne dans l'humanité. Elle nous rend solidaires d'un certain nombre d'éléments. Voilà. Ouais. Voilà. Donc, nous ne sommes pas appelés à de l'héroïsme, nous ne sommes pas appelés à de la surcharge, mais à du recueillement, à de la profondeur. Voilà. Voilà. Combien la relecture dans nos existences aide progressivement à trouver des directions, des sens, des continuités. Voilà. Pour encore ressaisir ce que j'essaye de vous dire, nous sommes tous dans un champ de bataille. Voilà. La bataille, elle a commencé depuis la création, depuis les commencements, entre l'Esprit de Dieu et l'ennemi de la nature humaine. Voilà. Et nous avons sans cesse à donner notre acquiescement et à dire oui à l'Esprit de Dieu et à dire non à l'ennemi de la nature humaine. Voilà. Et ceci demande un discernement pour sentir ce qui vient de Dieu et ce qui devient du serpent, ce qui n'est pas juste. Et nous avons à décider et à choisir à quel camp nous appartenons. Et c'est sans cesse et c'est jamais définitif. Voilà, on pourrait dire un certain nombre de critères sur qu'est-ce que c'est que le bon esprit et qu'est-ce que c'est que le mauvais esprit, mais je vois que l'heure tourne et que il faudrait que je puisse conclure. Pour donner simplement en conclusion des petites scènes évangéliques. Voilà. Vous connaissez le tableau de Caravage avec la vocation de Matthieu. Voilà, vous voyez ce grand doigt de Jésus, etc. Et puis les publicains qui sont là à table et Matthieu qui est là en train de dire voilà. Donc l'évangile nous dit une décision rapide, puisque Jésus lui dit « Suis-moi » et il se leva et le suivit. C'est tout simple. Voilà. Pas d'hésitation. Et le tableau de Caravage à Rome, donc où Matthieu est assis au milieu d'autres publicains, il a une main sur la table, sur les pièces, sur l'argent, et l'autre vers la poitrine, l'air de dire à Jésus « Moi ?» C'est moi que tu appelles, tu ne te trompes pas. Voilà. Et l'appel de Jésus dit une confiance. Oui, tu le peux. Oui, je t'autorise. Tu peux compter sur la force de mon appel. Tu peux te lever. Tu peux être libre par rapport à l'argent. Tu peux y aller. Tu peux, je t'autorise. Voilà. La décision de Matthieu est de consentir à un amour qui le dépasse, qui croit en lui. Voilà. Sa décision, elle est de l'ordre d'une réponse. Voilà. Il entend dans la manière dont Jésus l'appelle une force, un appel à la liberté, il y va. Je prends une autre scène. Un jour de sabbat, Jésus est dans une synagogue avec un homme à la main paralysée. On l'observe. Va-t-il guérir ? Et ainsi on pourra le juger pour contrevenir à la loi du sabbat. Voilà. Et Jésus remet les choses à leur place en posant la question « Est-il permis de faire le bien ou de faire le mal ?» Une manière de dire « La lettre de la loi tue, c'est l'esprit qui vivifie. » Oui, la lettre tue et effectivement Jésus ira à la mort. L'esprit de la loi nous invite à comprendre que la loi est faite pour nous aider à décider. et non pour prendre notre place dans le discernement. Le sabbat est fait pour l'homme, pour qu'il s'arrête de travailler, qu'il ait un espace pour louer, reposer son être du souci de gagner sa vie, et non pas l'homme pour le sabbat, l'homme devenant à ce moment-là esclave d'une mise en œuvre formaliste. Voilà. Et sans doute cet homme qui va retrouver sa main un jour de sabbat, j'imagine qu'il avait la main paralysée au sens où la main, c'est ce qui peut donner et recevoir, c'est ce qui vit de la relation aux autres, c'est ce qui peut bénir, ce qui peut vivre de la charité. Voilà. Et cet homme, il se sent complètement hésitant entre d'un côté une loi qui dit « le jour du sabbat, tu n'as pas le droit », voilà, et de l'autre son cœur qui lui dit « mais la charité n'attend pas ». On ne va pas attendre lundi pour... etc. Est-il permis de faire le bien le jour du sabbat? C'est évident. Voilà. Mais entre une interprétation rigoriste et légaliste et cet appel du cœur, il ne sait plus. Il a la main paralysée. Voilà. Et Jésus met les choses à leur place en disant « oui, la loi du sabbat, elle est importante. Libère-toi du travail. Libère-toi du joug de l'esclavage de sans cesse. » En vouloir plus. Voilà. Vis la charité le jour du sabbat, tous les jours. Fais le bien. Voilà. Et les pharisiens sont furieux de cette libération de l'homme. Voilà. Bon, je vous dis encore une petite histoire, mais je vais vous écouter. C'est une petite histoire sur le discernement. Je l'aime bien parce que. Il y a quand même beaucoup de chrétiens qui pensent que il faut beaucoup de générosité. Alors, c'est une histoire que raconte Jean Vanier. Voilà, il est pressé, il va à un rendez-vous. Et donc, il va à son rendez-vous dans la rue, et voilà qu'une femme le reconnaît. « Ah, Jean Vanier !» Elle l'arrête et veut lui parler. Et commencer à raconter une histoire, etc., en disant « Ah, c'est l'occasion, j'ai justement ça à vous demander, etc. » Et lui n'a pas le temps et dit « J'ai un rendez-vous. » Et il la plante là. Il fait 50 mètres. Et puis au bout de 50 mètres, il se dit « Ah, j'ai du remords. Comment, toi, Jean Vanier, tu envoies balader une demande sans savoir de quoi il retourne ?» Il s'est arrêté, il s'apprête à faire demi-tour, puis il entend une autre voix qui lui dit « Oh, tu n'es que Jean Vanier. » Et il a continué son chemin. Il n'est pas revenu. Voilà. Il ne peut pas tout faire. On a des limites. Il a un rendez-vous, ben c'est tout. Il ne va pas être le sauveur du monde. Voilà. Ouais. Il n'est que Jean Vanier. Il n'est pas le Jean Vanier à tenir une image médiatique absolument nécessaire, etc. Voilà quelques éléments sur le discernement. Il y aurait encore beaucoup de choses, mais je préfère vous écouter et essayer de répondre à vos interrogations. Voilà.
Un grand merci, Bruno. Alors, est-ce que vous avez quelques questions? Elles sont des questions un peu délicates, parce qu'il faut arriver à poser des questions qui ne soient pas des cas de discernement public. Donc, pour tel ou tel point, d'investissement, rien de réaction. Tout le monde entend?
C'est la vie qui De fait, il y a des décisions qui prennent du temps et sur lesquelles il faut discerner. Ce n'est pas forcément les décisions les plus importantes. Et puis d'autres qui sont des éclairs, une conversion qui traverse Matthieu et qui, d'un seul coup, voilà, c'est une fulgurance. Saint Paul, quand il a sur le chemin de Damas cette révélation, il tombe de cheval, il ne sait plus où aller, il en devient aveugle, tous ses repères sont mis par terre, donc il va rester 3 jours sans du tout savoir, et c'est Anani qui va venir, j'allais dire, lui ouvrir les yeux, le rapport à l'autre. Mais cette fulgurance, il ne l'a pas vu venir. Je crois que chacun pourrait, en relisant son existence, trouver d'un côté... Enfin, moi, je vois, par exemple, pour parler de moi, il y a des moments où j'ai eu des relations difficiles avec tel ou tel. Le pardon, la reconstruction d'une relation, ça a pris un temps considérable, des années. Malgré, j'allais dire, l'appel chrétien qui est dire faut être chic et sympa, faut se pardonner, etc. Mais quand les blessures sont vraies, c'est, j'allais dire, il faut que le corps, il faut que la chair prenne le temps d'avancer, de digérer. C'est pas simplement l'esprit qui commande l'ensemble de ces réalités qui prennent dans le fond de l'existence. Donc il y a des chemins qui sont longs. Et puis d'autres qui sont des coups de génie, voilà, c'est une évidence d'un seul coup qui me tombe dessus. Je crois que chacun pourrait témoigner.
Une autre question ? Merci mon père pour votre intervention ce soir. J'ai une double question. Est-ce que le discernement dont vous avez parlé ce soir, c'est pas un petit peu le fardeau chrétien, la religion chrétienne est une religion de liberté qui laisse la part du libre arbitre à l'homme, qui a cette faculté de choisir. Dieu nous laisse la faculté de choisir, d'où le problème du discernement. Mais ce que la question qui est derrière celle-ci, c'est: y a-t-il des situations où notre besoin de discernement quelque part est aboli parce que Dieu choisit pour nous? Vous avez fait référence à Marie, elle a été choisie par Dieu. Vous avez fait référence à ce pasteur qui devait donner le côté de l'Atlantique, enfin, qui a retraversé l'Atlantique pour se sacrifier pour son pays ou tel qu'il l'entendait. Et souvent, dans l'histoire des grands hommes, il y a cette dimension de la peine, enfin, qui dépasse, hein, cette notion de destin. Donc, y a-t-il des situations finalement où nous n'avons pas vraiment à exercer une action positive de choix parce que, quelque part, Dieu a un peu choisi pour nous?
Alors, je vous invite à travailler sur la première phrase que vous avez dite. C'est-à-dire, pour un certain nombre, pour la plupart, il y a la liberté de choisir. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, si je vais au bout tout de suite, puis ensuite vous allez imaginer le chemin qu'il faut pour aller au bout, la vraie liberté, c'est de dire oui. C'est tout. Marie, elle est libre parce qu'elle dit oui. La liberté, c'est pas de choisir entre un oui et un non. Pour dire autrement, dans le jardin de l'Éden, dans la Genèse, Dieu dit qu'il met au centre du jardin l'arbre de la vie. Et dans un coin, il met l'arbre de la connaissance du bien et du mal en disant « tu n'en mangeras pas ». Et le serpent dit « oh, c'est cet arbre-là qui est au centre du jardin et non pas l'arbre de la vie ». Et l'homme avec le serpent, s'imagine qu'effectivement, ce serait bien de connaître le bien et le mal, et comme ça de pouvoir choisir. Hein? Choisir, c'est ne voir que l'arbre de la vie, et non pas de choisir entre le bien et le mal. La liberté, la vraie liberté, c'est de dire oui, c'est-à-dire de dire oui à la vie, et non pas de balancer entre A et B. Être libre, c'est pas simplement je peux aller à Constantinople ou à Casablanca. J'allais dire ça, très bien, c'est du libre arbitre, mais c'est pas la liberté en profondeur. La liberté de l'existence, ce qui honore l'être humain, c'est de pouvoir sans cesse rebondir dans les relations, dire oui à la vie, dire oui à l'autre, le pardonner, etc. Quand on dit Marie, elle n'a pas connu le péché originel, ça veut dire, dès le début de sa vie, elle est dans la confiance en l'arbre de la vie. Elle croit que Dieu, dès l'origine, est un vivant qui appelle à la vie. Et du coup, l'Annonciation, c'est pas tellement une scène où elle pèse le pour et le contre, c'est une relation qui est une annonciation et non pas une demande. On annonce, ça veut dire que simplement un ami qui parle à un ami, Dieu qui parle à Marie, Dieu annonce. Mais c'est évident que Marie ne peut que dire oui. Et c'est paradoxal, elle ne peut que dire oui, au sens où elle est libre. Et donc, Dieu serait malvenu s'il mettait en doute le fait que Marie puisse dire non. Puisqu'elle est sans péché, elle est toute droite, elle ne choisit que la vie. Et donc, c'est forcément un oui qu'elle dit. Et si la demande de l'ange c'était qu'est-ce que t'en penses? Tu dis oui, tu dis non, tu vois les avantages, tu vois les inconvénients, etc. Ce serait déshonorant. Ce serait penser que Marie aurait la capacité du refus. De ce point de vue-là, elle est un peu exceptionnelle par rapport à nous, au sens où nous sommes sans arrêt dans une bagarre, dans le rapport à l'autre. Alors ça touche à un autre point qui est tout aussi fondamental de l'anthropologie et que touche la Bible. J'ai essayé de parler un peu dans le discernement du rapport à l'altérité. On voit bien combien, partout, encore, la Croix d'aujourd'hui, enfin, le journal La Croix, on est sur les questions de bien-être, d'être bien dans sa peau, de ce qu'il faut grandir dans son existence, de se construire. Très bien. Quand Dieu crée la femme, il dit c'est pour être une aide assortie à l'homme. Alors dans la Bible, forcément, comme on peut imaginer, c'est écrit par des hommes, et donc on traduit en disant que la femme a été créée à partir d'une côte de l'homme. En fait, le terme hébreu, c'est aussi bien un côté, c'est-à-dire l'humanité. L'homme, il a deux côtés, un masculin et un féminin. Pour pouvoir parler de l'homme, c'est tout de suite deux. Pour pouvoir parler de Dieu, c'est tout de suite trois. Et nous sommes sans cesse à essayer d'imaginer moi. Le moi n'existe pas. Nous n'existons qu'en relation avec d'autres. Et les autres nous sont une aide assortie. Voilà. Nous avons à regarder les autres dans leurs différences, différences de race, de culture, de sexe, etc. Les autres sont là pour nous sauver de nous-mêmes, sont un sacrement du salut. Voilà. Notre liberté, elle est à exercer dans le fait que nous sommes constitutivement dans la création des êtres relations, créés pour vivre avec d'autres. Sinon, seuls, nous n'existons pas. Nous avons... Dieu ne choisit pas pour nous. Nous avons à choisir la vie. Imaginez la liberté. On la confond tellement avec le libre arbitre. Mais combien c'est difficile d'être libre, c'est-à-dire d'être sans attachement désordonné. C'est ça être libre. C'est choisir en n'ayant pas d'attachement. Et donc, je choisis la vie. Et je ne m'arrête pas au fait que, quand même, ce vase de cristal, je tiens, et donc, ou je ne sais pas quoi d'autre. Non. Mais on est long à renoncer à toutes nos images, à tous nos imaginaires, à toutes nos représentations, à sans cesse oser. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Voilà. Alors évidemment, c'est vrai pour la femme, mais vous voyez, constitutivement, dès l'origine, on ne peut parler de l'homme qu'en parlant de relations. Combien notre civilisation, elle nous imagine d'un homme tout seul qui va décider.
Voilà. Comment fait-on discerner sans Dieu ? On a tellement besoin de Dieu pour discerner.
Alors, Dieu, c'est le tout autre. Le tout autre. Et donc, je crois qu'on a besoin de Dieu pour discerner, au sens où nous avons besoin du tout autre, c'est-à-dire de quelque chose qui nous tire au-delà de nous-mêmes, qui nous envoie vers de l'autre. Mais si on dit « j'ai besoin de Dieu » et que notre représentation de Dieu, elle est un Dieu, j'allais dire, que je possède, sur lequel je peux mettre la main, alors là, c'est pas juste. Parce que ça n'est plus le tout autre. Et du coup, ça veut dire aussi, si vraiment c'est le tout autre, je n'ai pas à juger ce qui se passe pour d'autres. Des tas de gens à travers l'univers, chrétien ou pas chrétien, prennent des décisions et je ne sais pas comment intérieurement ils se réfèrent au tout autre, c'est-à-dire au-delà d'eux-mêmes, jusqu'où ils élargissent les piquets de leur tente. Dans les scènes de début d'évangile, on a plusieurs fois des démons qui interviennent et qui disent « Ah, je sais qui tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Voilà. » Et Jésus leur dit « Mais taisez-vous. » Au sens où, si vous dites trop vite des mots sur une réalité, c'est pas juste. Les mots viendront à la fin, une fois que le dévoilement de qui est Dieu sera total. Voilà. Dieu, il a besoin d'abord de dire qui il est avant de dire son nom. Il se contente de dire « je suis celui qui suis ». Mais ce n'est qu'une fois son fils mort sur la croix, ressuscité, alors oui, là, nous découvrons qui est Dieu. Voilà. Et c'est vraiment un tout autre. Est-ce qu'on a besoin de Dieu ? Le mot besoin est évidemment ambigu. à la fois nous avons besoin, et puis en même temps, tout besoin est à renvoyer dans le tout autre et à nous libérer de besoin, de manière à ce que ce soit bien le désir et non pas le besoin qui nous traverse. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question, mais en tout cas, voilà ce que ça me donne envie de dire.
La notion de bonne foi, c'est-à-dire je peux en toute bonne foi avoir l'impression ou dire à mes cousins qui a déjà fait que j'ai discerné pour le bien, par exemple si je suis un dictateur je discerne pour le bien de mon peuple mais en toute bonne foi je sais qu'il faut que je fasse ça alors qu'en fait je suis en prise à mon orgueil, à une montée de puissance ou je ne sais quoi qui fait que je discerne pas. En réalité, qu'en est-il de mon discernement ? Il faut passer un certain nombre de choses avant la date. Et je dis que c'est en toute bonne foi. On est obligé de croire. Hein.
Mais c'est tout le temps comme ça. C'est-à-dire, heureusement, ce que nous décidons, ça n'est pas en mauvaise foi. J'allais dire, quand il y a un accident de voiture, tout le monde immédiatement dit « je ne l'ai pas fait exprès ». Ce serait quand même le comble de dire « je l'ai fait exprès ». J'allais dire, donc tout le monde est toujours de bonne foi. Et l'histoire nous montre que notre bonne foi, elle est relative. Et que nous découvrons que le cœur de l'homme est plus compliqué que ce qu'on pensait au début. Là encore, pour ne pas prendre vos exemples, mais prendre le mien, à 18 ans, quand je décide de rentrer à noviciat et que le maître des novices m'accepte, j'ai un certain nombre de motivations, et au long des années, je peux découvrir combien ce que je pensais être une bonne foi, c'est bien compliqué, et qu'il y avait bien des motivations qui ne sont pas si pures ni si idéales que... Et on fait son chemin avec ça, et on se convertit, et on se purifie. On est des êtres historiques, et nous avons à découvrir qu'est-ce que c'est que la fidélité de Dieu à travers nos propres histoires, nos propres cheminements. Marie n'arrête pas de méditer les choses dans son cœur. Elle ne sait pas, elle s'en remet à Dieu. Et là encore, je crois que c'est assez fondamental comme attitude, nous ne pouvons ni n'avons à nous juger. Bien évidemment, nous espérons être dans une bonne foi, mais bien heureusement, c'est Dieu qui, au final, nous recevra et nous révélera quelque chose de la vérité de notre cœur. Et que cette scène du jugement dernier nous montre que nous ne savons pas quand nous faisons le bien, les visites des pauvres, des malades, etc., et que nous ne savons pas non plus quand nous ne le faisons pas. Ça nous échappe. Nous avons à faire confiance en ce Dieu qui nous révélera qui il est, qui nous sommes, qui va faire le tri en nous entre les parties de refus et les parties d'acceptation, et que nous allons être libres. Déjà dire, notre partie heureuse et généreuse sera libre par rapport à la partie au contraire mauvaise. Et c'est une très bonne nouvelle. Voilà. Donc ce jugement dernier, il n'est pas madame à droite et monsieur à gauche, il est une partie de moi-même à droite et une partie de moi-même à gauche, et la partie bonne va enfin être libre. Libre pour aimer, libre pour décider, et c'est une excellente nouvelle. Et le jugement dernier, là encore, c'est ce que nous dit l'évangile de Matthieu, le jugement dernier, c'est la croix. C'est-à-dire, le mot final de Jésus, c'est « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Donc, nous avons, de bonne foi ou de mauvaise foi, quoi qu'il arrive, à ne pas nous justifier, mais à nous confier en la miséricorde de Dieu et c'est lui qui sait, et c'est comme ça. Et que du coup, dans la relation aux autres, nous sommes libres pour accepter sans cesse d'être remis en cause, parce que lui aussi est de bonne foi, et que moi j'espère être de bonne foi, et que de toute façon c'est Dieu qui jugera, et donc c'est pas grave. Dans mon existence, éventuellement de perdre la face, de me remettre en cause, ou de tenir ferme dans Tel Aviv. Je dois tenir ferme parce que c'est ce à quoi je crois. Mais je confie mon existence en Dieu. Je ne vais pas chercher à me justifier en disant oui, moi j'ai décidé, j'ai fait une très bonne méthode de décision, et pour finir, ma décision elle est excellente. Ben non. Non. Nous savons que l'enjeu de la décision, il est dans ce combat spirituel. Il est dans le choix de la vie, il est dans le fait de renoncer à tous ces mauvais attachements, à tout ce qui nous enferme. Et c'est tout. Et donc nous avons à choisir la vie tout le temps. Je pense que Hitler trouvait dans le regard qu'il tournait sur lui-même un certain nombre d'auto-justifications. Je pense qu'Hitler avait une manière de se regarder où il s'auto-justifiait. Ah oui. Oui, pour moi c'est voilà. Je ne crois pas qu'il y ait un homme 100% pervers. Voilà, 100%. 90% peut-être, oui, mais 100%, non. Il y a toujours un homme, dans tout homme, malgré ses gestes de violence, il y a toujours une humanité qui souffre, il y a toujours un enfant qui est là. Toujours. Alors nous ne le voyons pas, l'adulte et le violent écrasent cet enfant, mais n'empêche qu'il est là et qu'il souffre.
Bien, un grand merci pour ces mots qui viennent clôturer toute ma différence ici. Bruno m'a rappelé qu'il a écrit quelques livres sur la vie spirituelle, pour qui certains en souhaitent, c'est vendu pas trop cher.
Oui, on dit.
Et tout même, vous dédicacez.
Bon, j'en ai ramené très peu. Il y a deux tomes. Il y en a un qui est sorti il y a deux petites années. Donc, c'est tous les deux de la vie spirituelle. Voilà, c'est pour aider à donner des repères dans la vie spirituelle. Il y a un tome 1 qui est paru il y a deux petites années et un tome 2 qui vient de sortir il y a trois semaines en librairie. Donc vous l'avez à la procure, vous l'avez, etc., etc. Mais comme je suis auteur, j'en ai quelques-uns que je peux solder. Voilà. Mais il ne faut pas le dire au libraire parce que, évidemment, c'est... Mais voilà, il y en a très peu d'exemplaires, donc c'est pas grave si je repars avec, et si vous les voulez, eh bien, pas de difficulté.
Voilà, encore un grand merci. Et puis. On va dire un discernement. Et alors, Anne-Marie a enregistré la totalité de la conférence, donc ça sera mis sur YouTube. Et par écrit aussi, pas.
Ça, c'est un très gros travail.
Bonne soirée à tous.
Comment?
Mais tu me dis comme ça?
Ouais, je vais demander.
Oui. Alors,